affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons nous pencher sur la question des normes et de la normativité. Un sujet qui peut sembler a priori quelque peu abstrait, voire aride et en tout cas complexe, mais qui en réalité ne l'est pas du tout. Si, il est complexe, mais il n'est pas aride. En effet, comme nous le verrons, ces deux termes de normes et de normativité contiennent une contradiction. Contrairement aux apparences, ils sont donc assez explosifs, ils créent une tension, et bien entendu, en philosophie, comme en bien d'autres occasions, il est toujours très intéressant d'explorer les tensions, les contradictions, de s'immiscer dans ces interstices qui existent entre les mots, car c'est souvent là que se cache, sinon la vérité ou la réalité, dont on verra qu'elle est parfois un petit peu fuyante, du moins c'est là que se cache la vie. Or, comme nous le verrons aussi, la question de la normativité est précisément au cœur, et c'est certainement lié, au cœur des tensions qui agitent fréquemment notre société, notre monde contemporain. En effet, la notion de norme interroge la relation entre le particulier et l'universel, l'individu et la société, peut-être même, sans utiliser trop de gros mots, de grands mots, l'immanence et la transcendance. Pour explorer tout cela, toutes ces facettes, eh bien, nous avons la chance de recevoir dans notre studio Claude Debru. Claude Debru, vous êtes philosophe, historien et philosophe des sciences de la vie et de la médecine, et vous êtes membre à ce titre de l'Académie des sciences. Vous venez de surcroît, et c'est bien sûr l'origine de cette émission, de publier aux éditions Hermann dans la collection Philosophie un ouvrage titré « Au-delà des normes, la normativité ». J'évoquais les contradictions qu'il y avait entre ces termes, mais en réalité, j'étais en dessous de la réalité, car en lisant votre livre, j'ai compris que le terme même de normativité constituait et contenait en lui-même une contradiction, ou en tout cas des tensions. Expliquez-nous cela.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup de cette introduction qui permet de bien rentrer dans ce problème. Je dois vous dire que le terme de normativité est un terme qui est entré assez récemment dans conscience philosophique, dans une conscience philosophique assez large, et qui, doit son succès certainement, son succès actuel en France, mais aussi à l'étranger, dans le monde anglo-saxon, il y a un certain nombre d'ouvrages sur la question. Il doit son succès aux réflexions d'un philosophe auquel je souhaite rendre hommage dès le début, à savoir Georges Canguilhem, qui a beaucoup réfléchi sur ces questions alors qu'il était engagé dans la résistance dans les années 40, donc dans la Seconde Guerre mondiale, et qui a tellement réfléchi sur ces questions qu'il a dit la chose suivante que je souhaite mettre en exergue, si vous le permettez, de cette conversation. L'expérience de la liberté, c'est l'expérience de la libération. Il faut le faire publiquement en 1942 ou 43, à Clermont-Ferrand.
Oui, c'était alors, certainement pas le champ sémantique préféré à cette époque, en tout cas pour les autorités.
En tout cas, ce terme de normativité, auquel il a donné donc un grand écho philosophique dans la langue française, effectivement inclut une forte tension qui frise la contradiction, parce qu'il inclut à la fois le besoin de normes et la nécessité de changer les normes, c'est-à-dire le pouvoir de les changer et de faire accepter ce changement. Alors, il avait proposé deux notions qui sont proches l'une de l'autre, invention normative et intention normative. Bon, pour essayer de comprendre cela, je pense qu'il faut se rappeler que Canguilhem était un philosophe qui avait fait des études de médecine, qui connaissait bien la physiologie humaine en particulier, et qui a émis la thèse paradoxale que la différence entre le normal et le pathologique n'est pas telle que le pathologique soit totalement dénué de normes de fonctionnement. Donc il y a, dans l'état pathologique, c'est la thèse de Canguilhem, on peut en discuter, mais elle est assez forte aussi sociologiquement, il y a dans l'état pathologique une forme de pouvoir de création de normes qui sont différentes des normes du normal. Et de toute façon, la vie ne peut pas se concevoir sans normes. Le fonctionnement de l'être vivant ne peut pas exister sans qu'il y ait, comment dire, une sorte de machine de régulation qui fixe certains caps, qui maintiennent certaines constantes, etc., etc. Donc, je crois que là, il y a une chose à bien avoir présente à l'esprit. La deuxième chose, c'est que la transition du normal au pathologique, elle est parfois brutale. Apparemment brutale, elle est préparée, bien entendu, mais elle est brutale, phénoménalement brutale. Ce que je veux dire ici, c'est que le pouvoir de créer des normes nouvelles est un pouvoir qui est assez mystérieux parce qu'il nécessite dans son expression, dans le fait que ces normes nouvelles ont un pouvoir réel sur la réalité des choses, sur la matière vivante, sur la matière sociale, eh bien, cela nécessite qu'il y ait une adhésion et qu'il y ait donc la capacité de suivre la norme. On va donc rejeter une norme existante et avoir la capacité de créer une norme nouvelle en ayant en quelque sorte la garantie de son efficacité. C'est terrible. C'est terrible. C'est ce qu'on voit tous les jours dans le domaine sociopolitique. C'est terrible. C'est impossible. Ou presque impossible. Donc, on est obligé sans cesse de transiger. On le voit. Ne faisons pas de commentaires trop appuyés.
Oui, parce qu'il y a quand même un glissement. C'est-à-dire, si je comprends bien dans les réflexions initiales de Canguilhem, on observe simplement que des normes valables en temps normal, désolé pour la tautologie, ne sont plus valables dans une période de pathologie ou de crise. Mais cet état de pathologie ou de crise n'est encore, si je comprends bien, qu'un état transitoire. Ensuite, on peut imaginer un retour à la situation normale où les règles normales s'appliquent. Ensuite, il y a un glissement. Ayant remis en cause les règles qui s'appliquent en temps normal, on se rend compte qu'elles peuvent être remises en cause, qu'on peut en inventer de nouvelles. Mais là, dans le champ social, parfois, elles remplacent les règles initiales. Ce n'est plus quelque chose de transitoire, c'est une dynamique qui peut être celle du progrès ou d'autres choses.
Absolument. Je rebondirai là-dessus d'une manière un petit peu différente. Progrès ou régression, bien entendu. Ceci pose la question du jugement. En quoi va-t-on pouvoir juger qu'une chose est un progrès, qu'autre chose est une régression ? Quelles sont les forces sociales qui font en sorte que quelque chose se passe qui n'est pas nécessairement vu comme un progrès ? Donc tout ça est un problème de jugement. Mais ça n'est pas ça que je voulais dire. Il y a une description magnifique de Piaget, le psychologue, sur la morale dans les années 30. Et Piaget s'est intéressé au jeu des enfants, mais sur une assez longue durée de 3 à 12 ans, par exemple. Et il a observé, sur l'exemple du jeu de billes, les différences entre Genève et Neuchâtel, par exemple, dans les règles. Les règles ne sont pas toujours toutes les mêmes. Et d'autre part, il a observé qu'à partir d'un certain âge, les enfants pouvaient avoir envie de changer les règles. Mais que ceci n'était possible qu'à une condition, c'est que ce changement des règles ait lieu, si je puis dire, démocratiquement, c'est-à-dire qu'il ait l'assentiment de tous. Autrement dit, l'initiative prise par un seul pour changer les règles a toutes les chances d'échouer. Ça, c'est tout de même très intéressant. Je ne saurais trop recommander la lecture de cet ouvrage de Piaget, dont je dois d'ailleurs la connaissance à un de mes collègues, Olivier Houdet, qui est professeur de psychologie à Paris Descartes. C'est un livre remarquable. Il est très, très inspirant aussi pour des choses qui sont parfaitement contemporaines. Donc, la démocratie enfantine. On peut changer les normes, on peut changer les règles du jeu, à condition que cela soit accepté démocratiquement. Bon, il y a beaucoup d'autres choses dans cet ouvrage, mais je m'arrête là.
C'est-à-dire que le jugement porté sur les normes serait alors purement pratique. C'est-à-dire qu'on dirait une bonne norme, c'est une norme... Du simple fait qu'elle est acceptée, elle devient une bonne norme. Ou est-ce qu'on peut se référer à d'autres choses plus... de l'ordre de la transcendance ou peut-être de la quête de vérité, je ne sais pas si c'est la même chose.
Oui, alors justement.
Le vrai, le pas vrai, le juste, l'injuste.
Oui, justement.
L'accord peut se faire sur des choses injustes quand même dans la vie aussi, ou dans les communautés.
Oui, je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre à la place de Piaget, certainement pas, et je n'ai pas les outils pour le faire. Mais... je dirais une chose, c'est qu'on observe au cours de l'évolution de la psychologie de l'enfant des stades différents. Il y a un stade où l'enfant croit dans la réalité divine des normes, dans la substantialité des normes, tout en passant son temps à les éviter, à désobéir. Il y a un certain égocentrisme. Et puis les choses petit à petit se stabilisent. La coopération, l'esprit de coopération, finit par l'emporter sur le plaisir que l'on peut éprouver à l'idée de désobéir. C'est un esprit assez paradoxal qui veut que le groupe se stabilise en quelque sorte. L'esprit de coopération qui fait que certains acceptent de perdre, mais que le plaisir commun du jeu subsiste. Voilà. C'est ça qui est assez intéressant dans la description de Piaget, qui était vraiment, inutile de le dire, un grand.
Donc les normes seraient lieu d'une forme de transaction entre l'individu et le groupe. C'est là que se joue la définition, l'élaboration des normes.
Oui, je pense que le groupe a une nécessité vitale. Il y a une nécessité vitale dans le groupe et donc dans la coopération. Sinon, aucune société ne peut fonctionner. C'est pas tellement une question de transaction. C'est une question de... L'espèce humaine est une espèce, ça a été dit par tel ou tel évolutionniste que je mentionne dans mon livre, une espèce intensément sociale. Intensément sociale. On ne peut pas vivre sans rapport interindividuel, de quelque nature qu'il soit. Oui. Qu'il s'agisse de rapports positifs ou négatifs, d'ailleurs. D'agonisme ou d'antagonisme. Voilà. Cela dit, ça ne permet pas d'aller trop loin. C'est une constatation banale que je fais là.
Oui, mais qui est liée aux normes.
Oui, qui est lié aux normes.
Les normes sont donc l'instrument que nous utilisons pour réguler nos rapports avec les autres.
Oui, absolument. Absolument. Ce sont des instruments de régulation. Mais, pour revenir à la question du jugement, ce qui, donne sa légitimité aux normes, c'est pas seulement le fait qu'elles sont des instruments de cohésion sociale. Ce qui donne leur légitimité, c'est leur relation à des valeurs. Et de ce point de vue, la norme n'est rien si elle n'est pas animée par des valeurs. Sinon, elle devient une coquille vide, elle finit par être rejetée. Elle devient une règle sans signification.
Oui, ça vaut peut-être le coup de bien préciser que les valeurs et les normes sont deux choses différentes.
Alors, les normes sont... Alors, voilà... Ce sont deux choses différentes, ça appartient à deux ordres de réalité ou de non-réalité différentes. Les valeurs sont l'objet d'une appréhension quasiment intuitive, pour beaucoup. elles ne sont jamais parfaitement réalisées dans le monde des choses telles qu'elles sont. Donc elles ne sont pas l'objet d'une véritable connaissance. Et puis, plus elles sont réalisées quand même, plus l'humanité progresse dans le sens de telle ou telle valeur, plus, c'est assez paradoxal, plus elles se redéfinissent comme d'autres, des valeurs encore supérieures, n'est-ce pas ? Une espèce de démarche de recréation permanente de valeurs à partir du moment où la valeur est réalisée. Il n'y en a jamais assez, en quelque sorte. Il y a toujours un futur à réaliser. Et ça, c'est quelque chose d'anthropologiquement très, très, très fondamental, hein, absolument.
Oui, c'est-à-dire que de la même façon que vous avez parlé des âges psychologiques donc observés par Piaget sur les enfants, on pourrait parler d'âge psychologique de l'humanité dans sa globalité.
Oui.
C'est une extrapolation un peu hardie, je sais pas.
Mais cette histoire de valeur, c'est quand même tout à fait essentiel, parce qu'il n'y a jamais assez de liberté, il n'y a jamais assez d'égalité, il n'y a jamais assez de fraternité, il n'y a jamais assez... Voilà. C'est un fait.
Ça, c'est dans l'intensité.
On l'observe.
Il y a aussi des allers-retours. Hein. Si je prends un exemple pour distinguer, vous allez me dire si je m'égare complètement ou pas, pour distinguer valeur et norme. Mettons la pudeur. La pudeur est une valeur universelle, je pense.
Oui.
Voilà. Mais la façon de l'interpréter offre une palette extraordinaire de variétés. La pudeur n'est pas interprétée de la même façon à Riyad qu'à Paris. Mmh. Et à Paris qu'en Amazonie. Mmh. Du coup, comment retombe-t-on sur nos pieds ? Qu'est-ce qui fait que la pudeur existe ? Qu'est-ce qui permet de la caractériser avec une si grande variété d'interprétations ? Et est-ce que finalement, du coup, on ne retombe pas sur cette définition que la norme, finalement, c'est l'accord social ?
Oui, la norme, c'est l'accord social, certainement, mais de rechef, cette norme a besoin d'être habitée quelque part. Sinon, elle finirait par être vidée. C'est ce que l'on observe fréquemment, d'ailleurs. Mais bon, pour revenir à votre exemple de relativité des normes qui incarnent telle ou telle valeur, comme la pudeur. Oui, certes. Mais je ne vois pas où est la difficulté. Il n'y en a pas. Ce sont des choses qui se jouent sur des registres différents. Alors la pudeur, c'est lié à quoi ? C'est lié à l'intégrité de l'individu, quelque chose qui... L'intimité. L'intégrité-intimité de l'individu, finalement. Alors... Comment cet individu, réalise cet étrange mélange d'intégrité, d'intimité et en même temps de manifestation de soi. Voilà, oui, certainement, il y a beaucoup de variétés. Mais il y a une chose que je voudrais dire à ce point, et qui concerne non pas les normes sociales, etc., tout ce domaine, mais plutôt la médecine. Parce que la médecine est un terrain particulièrement fertile pour ce genre de discussion. Ce que je veux dire est la chose suivante. La médecine est confrontée en permanence au problème de l'individualité. Nous sommes tous différents. À un point que nous n'avons pas encore complètement exploré, mais que les études génétiques et épigénétiques, actuellement très en vogue, c'est ce vers quoi elles nous conduisent. Les individus sont profondément différents les uns des autres par leur constitution qui est elle-même le reflet d'une histoire individuelle. Voilà. Alors ceci pose un problème à la médecine qui... est obligé de traiter des situations, soit en les individualisant, et ça, c'est plutôt du domaine de la psychologie, soit en les traitant d'une manière pharmacologique, et ça, ou d'autres manières, je ne sais pas. Et ça, c'est le domaine traditionnel. Mais, de rechef, la sensibilité individuelle, pour l'instant, est quelque chose qui n'est pas véritablement appréhendé. Et ça peut, comment dire, créer des problèmes dans les traitements, dans le suivi de la pathologie. Donc c'est un équilibre extrêmement subtil et dont toutes les données sont loin d'être connues. Il est clair que s'il y a une leçon à tirer de la génétique, c'est que la génétique est quelque chose, premièrement, encore assez mal connu, et deuxièmement, de beaucoup plus ouvert que ce que l'on ne le pensait, ou la manière dont on s'est représenté à certaines époques le pouvoir des gènes.
Parce que souvent, quand on parlait de génétique, on avait peur d'une forme de déterminisme et qu'on n'est plus dans cet univers-là du tout, désormais.
On n'est plus dans un... D'abord, les choses sont beaucoup trop complexes. Et on ne sait pas comment les... Tout simplement, on ne sait pas comment les modéliser. Sans parler du cerveau, alors là. Nous pourrions en parler longuement.
Mais parlons-en, justement. On parle beaucoup de ces notions de plasticité, parce que finalement, ça revient sur ce sujet. C'est-à-dire que le déterminisme, ça peut être une forme de données intangibles d'une autre nature, peut-être que des normes d'essence divine ou autre, mais c'est quand même de l'intangible et de l'immuable. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'on est dans une société qui souffre, ou en tout cas qui doit gérer un équilibre instable du fait qu'il n'y a plus rien qui soit donné pour acquis, dans aucun domaine que ce soit. On est dans un univers qui est extrêmement fluide, malléable, où même les individus, d'ailleurs, se voient enjoints de s'inventer eux-mêmes, de se réinventer, non seulement leur carrière, mais leur destinée. On leur explique qu'ils sont maîtres dans leur propre histoire, qu'ils doivent se donner leurs propres valeurs, et s'ils ne le font pas, ils sont rejetés à la marge comme étant en quelque sorte des losers. Tant et si bien, tiens, rejetés à la marge, ça signifierait que cette nécessité de rejeter les normes ou de se donner chacun ses propres normes est devenue elle-même une norme.
Oui, absolument. Absolument.
Mais quelle norme ?
Absolument.
Est-ce qu'elle contient encore une valeur, cette norme, si elle est immuable et sans cesse... Enfin, si le principe même de la norme, c'est de devoir remettre en cause toute norme, comment va-t-on retomber sur nos pieds ? Et recréer de l'accord social.
Oui, certainement. Le phénomène de rejet est un phénomène terrible. Terrible. Le phénomène d'exclusion est un phénomène terrible. Comment rendre nos sociétés plus inclusives ? Voilà. C'est une préoccupation. Et c'est une préoccupation qui, anime... pas seulement les forums politiques, les discussions parfois musclées, etc., etc. Mais c'est une préoccupation qui, je l'ai constaté, anime un certain nombre de... c'est futile ce que je viens de dire, mais beaucoup de responsables qui ont des positions intermédiaires et qui s'efforce justement d'agir dans le sens de rendre une société plus inclusive. Je vais vous raconter une histoire personnelle à ce sujet. J'ai participé à la fondation d'une association européenne pour l'histoire de la médecine, c'était à Strasbourg en 1991. Et il y avait des assemblées préparatoires, et naturellement il y avait des divisions. Il y avait une vision de l'histoire de la médecine qui était beaucoup plus classique, je dirais, et une autre vision, beaucoup plus axée sur tout ce qui est domaine de la santé publique. Et il y a eu des tensions. Et l'argument qu'il a emporté en faveur de la coopération des deux points de vue, de l'intégration des deux points de vue, c'était très frappant. Celui qui a souhaité être intégré dans la chose, à savoir le spécialiste de la santé publique, a dit qu'il fallait une société qui soit inclusive plutôt que exclusive. Ça m'a toujours beaucoup frappé. Ça m'a toujours suivi. Je crois que c'est un fait. Ouais, voilà.
Pour inclure, il faut des normes communes.
Pour inclure,
encore,
Pour
inclure des individus dans une société, encore faut-il que cette société soit définie. Comment peut-on inclure quelqu'un dans une société, si, ou dans un club, ou une communauté, quelle qu'elle soit, si les frontières de ce club, de cette communauté, de cette entité, pour prendre un terme encore plus neutre, ne cessent d'évoluer, d'être floues, réévaluées, remises en cause. Est-ce que la personne qu'il s'agit d'inclure ou qui souhaite s'inclure n'est pas un peu comme le taureau dans l'arène, avec des injonctions contradictoires, des appels à courir tantôt de gauche, tantôt de droite, en haut, en bas, mettre en valeur tel ou tel aspect de sa personnalité? J'ai l'impression que la dynamique est un petit peu devenue folle. Si je reprends l'évolution que vous donnez des âges psychologiques ou des âges psychologiques de l'humanité dans son entièreté. Dans un premier temps, vous m'arrêterez si je me trompe, on a des normes divines ou en tout cas substantielles.
Fixes.
Ensuite, naturellement, par désir de liberté, pour libérer aussi l'inventivité incroyable de la nature humaine, on rejette ces normes fixes, on s'en fixe d'autres, mais avec un accord social et quand même une idée de progrès collectif de l'humanité entière ou de communauté entière. Et aujourd'hui, stade ultime, c'est plutôt centré sur l'individu, j'ai l'impression. C'est-à-dire que cette inventivité, elle n'a plus pour siège des entités vastes qui étaient les instruments du progrès dans l'histoire, la nation, des groupes constitués. Mais l'individu, comment peut-on encore être dans une phase de progrès si tout repose sur l'individu? Est-ce qu'on n'est pas retombé en adolescence, en quelque sorte? Dire à un individu qui doit s'inventer en permanence et qu'il est tout puissant et que son rôle, c'est de remettre en cause les règles, chose qu'on entend très souvent, même en entreprise, c'est un langage très commun. On demande aux gens d'être les inventeurs de leur propre carrière, on prétend, c'est parfois aussi un petit peu mensonger, mais qu'on veut des individus atypiques, un peu borderline, parce qu'ils sont plus créatifs. Mais bon, tout ce discours finit par être quand même intégré par les gens. Moi, j'ai l'impression que c'est... Enfin, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais j'ai l'impression d'entendre un parent démissionnaire face à un adolescent saisi d'un désir de toute puissance. Je délire complètement ou...
Vous voyez un risque de désintégration?
Ah, je vois un risque de désintégration et je ne vois pas comment on peut inclure dans une société qui n'a pour règle que de ne pas en avoir, si vous voulez.
Oui, là, je pense qu'il ne faut pas aller aussi loin
que ça.
Vous forcez le
trait. Je pense mettre quand même le doigt sur quelque chose.
Vous forcez le trait. Oui. Écoutez, ça permet d'aller un petit peu plus profondément. Peut-être faut-il avoir sur ces choses-là un regard historique. La liberté a été un progrès. Elle l'a été, de fait. Ouais, on ne peut pas le nier. L'égalité aussi. Elle a été un progrès. Est-ce que nous allons toujours dans le sens du progrès? La question des normes... Moi, je n'aime pas ce terme, norme. Je n'aime pas ce terme. Il n'est pas aimable, d'ailleurs.
Non. Même à l'oreille.
Oui. mais je ne sais pas comment le remplacer. Et de fait, nous avons besoin de règles de vie. Sinon, c'est... Mais lorsque vous dites « nous sommes dans une société où comment dire, la toute-puissance de l'individu est exaltée, favorisée, est utilisée », bien entendu utilisé. Ce n'est pas une société sans normes. C'est une société où l'individualisme devient la norme. Oui. Plus ou moins. Ce n'est pas totalement vrai. Mais enfin, l'individualisme est exalté, exacerbé. Aussi dans l'éducation des petits-enfants, on le voit. Alors, ça nécessite un effort d'éducation. C'est la conséquence que j'en tirerai pour ma part. Ça nécessite un effort d'éducation qui n'est pas hors de portée d'une société comme la nôtre. Je ne vais pas citer tel ou tel homme politique qui a publié un livre récent sur l'éducation, mais c'est absolument fondamental. Il a eu raison de le faire. Parfaitement raison de le faire. Et c'est pas ici, à l'Institut de France, qu'on dira le contraire, certainement. Je pense que beaucoup de choses, beaucoup de possibilités résident dans l'éducation. Et l'éducation, c'est nécessairement quelque chose qui concerne l'assimilation, terme de Piaget, l'assimilation de règles. Normes, ça veut dire à peu près règles, finalement. Alors, règles, ça paraît
c'est
plus...
C'est pas un terme très aimable non plus, d'ailleurs, règles.
Oh, mais écoutez...
Vous voyez comme la sensibilité contemporaine est susceptible sur ce genre de choses. Hein.
Oui, oui, je vois. Je vois. Oui, non, ça n'est pas tellement dans l'air du temps. Mais je veux dire, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Ça dépend de ce qu'on veut. Il y a des sociétés, alors là on parlait de progrès versus pas progrès, stabilité voire régression, il y a des sociétés qui fonctionnent sur le mode de la règle impérative, qui fonctionnent, mais qui sécrètent en permanence quelque part une sorte de contestation interne. On le voit partout. Sauf dans les plus, évidemment, dans les plus violentes.
Oui, ou la contestation simplement brimée, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais au fort intérieur de chacun. Cela dit, est-ce qu'on n'est pas dans une dimension un peu schizophrénique à propos de ces choses ? Je viens d'expliquer qu'on ne supportait plus les normes, les règles, et en même temps, on constate une forme de pullulation des normes, voire un désir de normes, soit de les protéger. À l'heure où nous parlons, il y a une loi sur le travail qui a été présentée. L'un de ses objets, ou en tout cas les soupçonnés de cela, est de détricoter cette somme de normes et de règles qu'est le Code du travail. Et aussitôt, des pans entiers de la société se lèvent et s'opposent à ce détricotage. On veut protéger ces règles et ces normes dont on sent qu'elles peuvent, ou pas d'ailleurs, être protectrices. L'autre chose que l'on peut constater assez curieusement, dans une société où justement il y a cette injonction à s'extraire de toute norme et à se réinventer, c'est que même dans la vie de tous les jours, nous sommes envahis à un nombre de normes sans cesse plus important, des normes techniques, des normes de qualité. Il y a une passion, là au nouveau, une contradiction entre cette injonction à la réinvention, la créativité, et une sorte de passion pour la conformité qui s'exprimerait dans des normes.
Oui.
On est un peu schizophrène, non ? Aidez-nous, docteur.
Oui. Bon, écoutez, que dire après ce constat qu'on ne peut que partager ? Il faut voir quelles sont les forces qui sont à l'œuvre derrière cette prolifération des normes. Quels sont les intérêts ? La société telle qu'elle est, elle n'est jamais totalement harmonisée. Ça n'existe pas. Elle n'est jamais totalement unifiée. Il y a toujours des champs de tension énormes dans la société telle qu'elle est. Alors, ce besoin de normes, c'est un besoin de protection, sans doute. On parlait de précaution. C'est un besoin de protection, oui. Ce besoin de protection, il est entretenu. Bon, il est naturel, hein, on le dit, on le comprend. Mais il est entretenu. Et il y a diverses fonctions sociales qui essayent de coexister les unes avec les autres. Il y a les fonctions qui s'adressent à ce besoin de protection. Et il y a des fonctions qui s'adressent à ce besoin d'innovation. Il y a des fonctions qui s'adressent à ce besoin de, je ne sais pas, d'échange, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, il y a un besoin supérieur, qui est le besoin d'une société qui soit autorégulée, qui soit autoréflexive. C'est un, C'est un vocable, l'autoréflexivité, que l'on entend beaucoup dans les cercles de la Commission européenne actuellement. Self-reflective society. On essaie d'aboutir à une société qui soit capable d'auto-réflexion, c'est-à-dire de jugement permanent sur ce qu'elle est en train de faire. C'est ça qui manque. C'est ça qui manque. On vit dans une espèce d'empiricité, de champ de tension, et il n'y a pas d'instance supérieure. On a besoin de quelque chose de supérieur. On a toujours eu besoin de quelque chose de supérieur, que ce soit une divinité, que ce soit une superstructure, que ce soit. Enfin, on a toujours eu besoin de quelque chose de supérieur. Et là, nous avons clairement besoin d'une structure qui préside à cette régulation d'ensemble de la société. Ce qui ouvre la voie à des évolutions, parce que le besoin s'en fait réellement sentir. À tous les niveaux, national, supranational, international, tout ce que vous voudrez, elles existent, mais il faut les renforcer. Je ne vois pas beaucoup de chemins différents. si ce n'est d'aller à une espèce de désintégration sociale rampante, de société, de compromis permanent, qui se stabilise à un niveau où l'ensemble n'est plus capable de répondre véritablement aux problèmes de l'heure. Voilà. Et c'est comme ça que je dirais les choses.
Nous avons commencé cet entretien en évoquant les mannes de Canguilhem et ses observations sur l'état pathologique qui donne lieu à la constatation, l'invention de nouvelles normes. Est-ce que finalement, ce n'est pas ce qui arrive à nos sociétés aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas... On voit que le terme de crise est quand même pas seulement crise économique, mais crise morale, crise de l'éducation, crise de la transmission, crise. Est-ce que ce n'est pas cela qui caractérise peut-être au fond nos sociétés aujourd'hui, un état de crise qu'on espère passager avant un retour à une nouvelle forme de stabilité, peut-être de nouvelles normes appelées à devenir plus stable, à ramener un peu, sinon de cohésion, au moins d'harmonie.
Oui, écoutez, j'abonderai dans votre sens en revenant un petit peu à l'histoire. Si vous regardez l'histoire de France, il n'y a pas eu beaucoup de moments qui n'aient pas été chahutés. Tout simplement. Pas beaucoup. Les moments qui n'ont pas été tellement chahutés, et encore, c'était la Belle Époque, avant la Première Guerre mondiale, et puis les Trente Glorieuses, mais ça a été aussi assez chahuté. Donc, voilà, si vous regardez l'histoire humaine, des périodes sans guerre, il y en a.
Oui, mais au-delà de la guerre, je pense, quand on pense à la Belle Époque, il y a quand même des valeurs, des sentiments qui unissent fortement, je pense, quand même la société. Par exemple, la foi dans le progrès faisait une forme d'unanimité. Aujourd'hui, on peine à trouver ces valeurs autour desquelles l'ensemble des valeurs positives, actionnantes en quelque sorte, qu'aujourd'hui, on est dans la liberté, l'égalité, tout ça... C'est pas très mobilisateur, vous voyez. C'est déjà acquis, puis surtout, elles sont définies de façon un peu négative. C'est-à-dire, ma liberté, c'est de pas entraver celle des autres. On n'est plus dans cette forme un peu, peut-être glorieuse, de la liberté qui guide les pas d'un groupe humain vers l'émancipation et un avenir radieux. On pressent pas trop d'avenir radieux, d'ailleurs. Il y a une forme de déprime.
Oui, ambiante. On est dans une dépression collective, ça, c'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair.
On s'éloigne du sujet, c'est ça que vous voulez me
dire. Non, on ne s'éloigne pas du tout du sujet. Vous venez de réévoquer la mémoire de Canguilhem. C'était un optimiste. Il partageait la croyance au progrès, évidemment. Encore qu'il y ait un de ses articles qui s'intitule, je crois, « La décadence de l'idée de progrès ».
Nous voilà bien.
Bon, plus, il a peut-être varié dans ses jugements, mais la question n'est pas là. Décadence de l'idée du progrès, certes, et en même temps, le progrès matériel de l'humanité, la disponibilité de biens n'a jamais été aussi forte. Donc nous sommes dans des situations qui sont totalement paradoxales. Mais bon, c'est un fait. Et quant à la dépression collective, on peut comparer ça à la dépression individuelle. Je pense qu'il y a, c'est ce qui me rend optimiste, une volonté d'agir dans l'homme qui ne peut pas être sous-estimée. Nous avons besoin d'action. C'est notre vie, c'est comme ça. D'action sur le monde, d'action les uns sur les autres, les uns avec les autres. Nous formons des équipes. Voilà. Et ça, c'est un motif de croire en la capacité de relever des problèmes et de les améliorer, peut-être pas de les résoudre, mais certainement de les améliorer. Voilà. Pour revenir à la médecine a quand même quelque efficacité dans la prolongation de la vie humaine. Et elle n'est pas la seule. Elle a quand même, on le voit, c'est très clair, une véritable capacité de mobilisation pour, comment dire, assurer une prolongation de la vie, qui a toujours été le but de l'humanité quand même, et une qualité dans cette prolongation. Et je voudrais faire quelques commentaires là-dessus, parce que là, on rentre dans un autre domaine qui n'est pas le domaine de la sociologie, de la philosophie sociologique, si je puis dire. On rentre dans un autre domaine qui est celui de la pratique et de la pratique du soin. Et du fait que, on voit ça beaucoup dans certaines maladies, on parle beaucoup des maladies neurodégénératives actuellement, avec raison. Et ce que l'on peut voir, c'est que le soutien du groupe formé, pas seulement par le médecin, mais par les proches, par les intervenants de toutes sortes autour du malade, est une condition, je dirais, de créativité collective et de dépassement du malheur individuel dans cette créativité collective. Ça me paraît tout à fait clair. On peut l'observer, le vivre. Certains de mes proches l'ont vécu. Et je peux en témoigner. Et ça va tout à fait dans le sens de ce que disait Canguilhem.
Ce qui signifie que, en son sein, dans les tréfonds de son âme, l'homme a les ressources pour faire face à tous les problèmes que nous avons évoqués, puisque lorsqu'il est confronté à des échelles et dans des groupes plus réduits à ce type de situation, paroxystique, difficile, il trouve en lui-même les ressources et les solutions pour, d'une part, refaire société et faire triompher ce qu'il a de plus beau en lui. J'étais frappé dans votre ouvrage. En conclusion, on arrive sur quelque chose qui est totalement au-delà des normes. Enfin, je l'ai reçu comme ça, et qui est de l'ordre de la réflexion sur ce qu'est l'homme, parce que finalement, c'est peut-être ça, au fil, le fond de toute cette réflexion. Qu'est-ce que l'homme ? Cet être qui s'invente, qui se réinvente. On arrive finalement à une question anthropologique. Et si vous me permettez de vous citer, et si je retrouve le passage, sinon je le restituerai de mémoire. Vous dites, et ce sont presque les dernières lignes de l'ouvrage, que celui qui n'a jamais vu devant lui le visage de la bestialité, de la perversité et de la haine, et qui n'a jamais été dépouillé, n'est pas un homme, mais il ne peut l'être non plus s'il n'a vu le visage de l'amitié et de l'amour.
Oui, alors, celui qui n'a jamais vu le visage de la haine et qui n'a jamais été dépouillé n'est pas un homme, ceci est une quasi-citation. Je ne l'ai pas inventé. Ça m'a été dit à une certaine époque, à un certain moment bien particulier. Ça m'a été dit et je pense que ça se trouve dans les Écritures. Sans doute dans le Nouveau Testament.
Il y a une forte dimension christique dans cette citation, c'est certain. Y compris dans la seconde, d'ailleurs.
Oui. Qu'en conclure ? Du point de vue que vous venez de mentionner, anthropologique, il y a cette espèce de, d'ambivalence qu'on n'arrive pas à, ou très difficilement à dépasser. Et j'aimerais citer une phrase de mon ancien camarade Yves Michaud dans un livre sur la violence. Il a beaucoup écrit sur la violence et actuellement ça suscite un regain d'intérêt. Ces écrits-là, toutes sortes d'autres écrits actuels. Il y a dans l'homme de la noirceur, une extrême noirceur qu'il faut oser regarder. Voilà. Alors, osons. Osons.
Mais écoutez, je vous propose que nous osions regarder cette noirceur, mais en souhaitant que ça nous permette d'aller vers la lumière. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous nous avez éclairé sur, à travers ce problème des normes, sur nombre de phénomènes que chacun peut constater, dont on souffre ou dont on s'inquiète à juste titre dans la société. Et que, oui, la solution consiste peut-être déjà à les regarder bien en face, et tout en gardant l'esprit que, pour revenir à cette question anthropologique, eh bien oui, que l'homme est capable du meilleur comme du pire, et que c'est certainement le propre des êtres pensants et inventifs que nous sommes.
Voilà.
En tout cas, pour ouvrir, je propose à nos auditeurs de se rapporter à votre ouvrage, qui est vraiment formidable parce qu'il permet justement de poser un regard neuf sur tout cela. Il s'agit donc d'Au-delà des normes, la normativité, par Claude Debru, chez Hermann Éditeur, pour la modique somme de 26 euros. Et c'est un livre certes ardu, mais qui vaut absolument la peine d'être lu, qu'il faut faire l'effort de lire, tant il dénoue ou pointe les contradictions qui traversent notre société et qui sait, peuvent être aussi fertiles. Merci beaucoup.
Merci à vous. Thank you.